VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition spéciale du 5 août 2020, au lendemain des explosions meurtrières à Beyrouth. Nathalie Barge à la présentation. Au moins 100 morts et des milliers de blessés à Beyrouth, au Liban. L'état d'urgence a été décrété dans la capitale libanaise où 300 000 personnes se retrouvent sans abri. Le monde se mobilise pour aller en aide au Liban. La communauté libanaise importante au Sénégal est très affectée par cette tragédie. En Guinée, le parti RPG au pouvoir tient sa convention à Conakry pour désigner son candidat à la présidentielle. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Les Libanais sont sous le choc après les explosions qui ont fait au moins 113 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri à Beyrouth, où l'état d'urgence a été décrété pour 2 semaines. La journaliste Rad Nasser du journal L'Orient Le Jour décrit la situation à Beyrouth après cette explosion hautement meurtrière.
C'est juste que c'est catastrophique. On a plus de 100 morts jusque-là, plus de 4000 blessés. Il y a des corps qui ne sont pas encore été identifiés. Il y a des personnes qui sont encore missing. C'est une ville sinistrée. On essaie de déblayer. On est encore en train d'établir un bilan des dégâts. C'est horrible.
De son côté, le gouvernement a réclamé l'assignation à résidence de toute personne impliquée dans le stockage des tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion. Abdourahmane Dia.
Les opérations de secours se poursuivent ce mercredi. Des secouristes épaulés par des agents de sécurité ont cherché toute la nuit d'éventuels survivants ou des cadavres sous les décombres. Les hôpitaux de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de COVID-19, sont saturés. La situation est apocalyptique. Beyrouth n'a jamais connu ça de son histoire, a estimé le gouverneur de la ville, Marwan Aboud. On aurait dit un tsunami ou Hiroshima. C'était un véritable enfer. Quelque chose m'a frappé à la tête et tous les objets ont commencé à voler autour de moi, a raconté Elie Zakaria, un habitant du quartier de Mar Mikhaël, célèbre pour ses bars nocturnes et qui fait face au port. D'après les autorités, quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine des puissantes déflagrations, les pires vécues par la capitale libanaise malgré son histoire tourmentée. Ces explosions ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique comme un séisme de magnitude 3,3 et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre à plus de 200 km des côtes libanaises.
Le nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion est principalement employé dans les engrais et entre aussi dans la composition d'explosifs à usage civil. Bagasikoura a joint le professeur de chimie Yanga Dijiba ici aux États-Unis.
C'est un produit chimique comme tout autre produit. C'est un produit qui a une couleur blanche et c'est un produit cristallin, c'est-à-dire ça contient un peu de petits pores là à l'intérieur, un produit qui est très soluble dans l'eau et qui a été toujours utilisé comme de l'engrais chimique.
Pour les plantes, mais c'est aussi utilisé pour la fabrication d'explosifs.
C'est pourquoi j'ai commencé par te dire que le produit, physiquement, ça a une forme cristalline, c'est-à-dire qu'il y a des petits pores à l'intérieur. Avec ces pores, ça peut absorber beaucoup d'autres liquides à l'intérieur, quoi. Donc ça peut comme des gaz aussi. Le produit, si c'est bien stocké, ça ne peut pas prendre le feu. Donc il doit y avoir une source de chaleur très élevée pour rendre le produit inflammable, pour que ça puisse prendre le feu.
Le professeur de chimie Yanga Dijiba était joint dans le Maryland, ici aux États-Unis. Les explosions dévastatrices à Beyrouth ont provoqué une avalanche de réactions de solidarité dans le monde. De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban. Yacouba Ouedraogo.
L'Union européenne va envoyer à Beyrouth plus de 100 pompiers avec des véhicules, des chiens et du matériel spécialisé dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain. La France envoie 3 avions d'assistance humanitaire et son président Emmanuel Macron se rendra sur place demain jeudi. Les Pays-Bas ont annoncé que 67 travailleurs, dont des médecins, policiers et pompiers, partent pour Beyrouth. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis une aide dans tous les domaines. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a ordonné la préparation d'un hôpital militaire de campagne à envoyer au Liban. Le président Donald Trump a affirmé que son pays se tenait prêt à apporter son aide. Israël a appelé à dépasser le conflit en proposant une aide humanitaire et médicale. L'OMS dit avoir commencé à expédier des kits de traumatologie et de chirurgie depuis Dubaï. Le Koweït a annoncé l'arrivée d'un avion contenant de l'aide médicale. L'émir du Qatar, Cheikh Tamine Ben Hamad Al Thani, a fait état de l'envoi de plusieurs hôpitaux de campagne. La Tunisie a décidé de l'envoi d'urgence de 2 avions militaires d'aide alimentaire et médicale et la prise en charge à Tunis de 100 blessés. Le pape François a appelé à prier pour les victimes, pour leurs familles et pour le Liban.
Et en Israël, Tel Aviv illumine ce soir son hôtel de ville avec le drapeau libanais en signe de solidarité. La communauté libanaise d'Afrique est également sous le choc après la tragédie qui a frappé Beyrouth. Notre correspondant Sedina Abagay a recueilli des réactions au sein de la communauté libanaise à Dakar.
Je m'appelle Radouane Sourour, je suis libanais d'origine, résident à Dakar. On l'a vécu très mal, c'est une catastrophe humaine. Bien avant que je sois libanais ou pas, on a vu des morts, des blessés, des humains qui n'ont rien à voir dans tout ça, qu'ils ont perdu leur vie, leurs proches, leurs biens. Et on a été touchés, vraiment on a été touchés profondément.
Moi je m'appelle Adnan Badawi, bon, en me soutenant Aldo quoi. Écoutez, ça fait très mal, bon, mais qu'est-ce que quand un truc arrive, on n'y peut rien quoi. Mais vraiment c'est vraiment dangereux, c'est... Bon, évidemment, j'ai pitié d'eux parce que déjà, ils passent une période très dure avec la crise économique au Liban et avec la maladie qu'on a, le Covid. Et maintenant, cette troisième truc est tombé au Liban. Et vraiment, j'ai pitié d'eux et ça me fait mal au cœur.
Je m'appelle Hussein Daher. Ça fait 15 ans que je suis à Dakar. C'est notre deuxième pays ici. Mais ça fait trop mal vraiment pour le peuple libanais. C'est un peuple qui mérite la belle vie. C'est un peuple qui est gentil, mais malheureusement, notre pays, il n'y a pas la paix, malheureusement. Je demande pour tous les pays du monde, le gouvernement, pour aider Liban.
Des Libanais au Sénégal pour clore cette édition spéciale sur le drame à Beyrouth.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au premier jour de leur convention à Conakry, les délégués du parti au pouvoir en Guinée ont plaidé pour que le président Alpha Condé soit leur candidat lors de la présidentielle, alors que l'opposition manifeste depuis des mois contre un troisième mandat du chef de l'État. 350 cadres du RPG devraient adopter jeudi matin une résolution pour officialiser leur choix. La date du 18 octobre proposée par la commission électorale pour la présidentielle n'a pas encore été validée par le chef de l'État. La gendarmerie sénégalaise a arrêté 6 suspects après l'attaque lundi à Dakar du siège du journal Les Échos par des partisans présumés d'un guide religieux qui reprochait à la rédaction d'avoir affirmé que ce dernier avait été contaminé par le coronavirus. Les 6 hommes seront déférés au parquet jeudi pour association de malfaiteurs, dégradation volontaire de biens et de propriétés immobilières appartenant à autrui. Le trafic routier est interrompu depuis 3 jours au Niger sur la Nationale 1, la principale route du pays, après des dommages causés par des fortes pluies, ont indiqué les autorités de la région de Dosso, qui abrite la portion sinistrée. La Nationale 1 relie Niamey au Bénin et au Nigeria, d'où proviennent l'essentiel du fret nigérien. Le ministère de l'Équipement, Kadi Abdoulaye, envisage la construction de déviations pour permettre une reprise partielle du trafic. La Tunisie a rendu le masque obligatoire dans les espaces publics sous peine de sanctions afin de limiter la propagation du coronavirus. Plus de 1500 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés, dont 51 décès. La pandémie de Covid-19 continue de progresser, faisant jusqu'ici plus de 700 000 morts dans le monde avec plus de 18,5 millions de cas d'infection. Aux États-Unis, au moins 5 personnes sont mortes dans la tempête tropicale Isaias qui a balayé la côte est du pays avec des vents violents accompagnés de fortes pluies, laissant des centaines de milliers de personnes privées d'électricité. Journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La commission namibienne de la concurrence a bloqué la vente des parts de la société allemande Schwenk dans Orongo Cement que West China veut acquérir à 870 millions de dollars. Le régulateur craint que cette acquisition ne conduise à une concurrence déloyale sur le marché local car West China détient déjà une participation majoritaire dans une autre cimenterie. Les parts de Schwenk dans Orongo, la plus grande cimenterie de la Namibie, que la société chinoise veut acheter, s'élèvent à 69,8%. L'Égypte et le Soudan demandent la suspension des négociations en cours sur la construction d'un méga barrage par Addis Abeba sur le Nil. Les deux pays exigent d'abord des consultations internes sur la proposition éthiopienne qui, selon eux, viole la décision prise lors du sommet de l'Union africaine le 21 juillet. Le Soudan menace de se retirer des pourparlers, jugeant inacceptable la volonté de l'Éthiopie de lier les discussions à une renégociation d'un accord sur le partage des eaux du Nil bleu. Pour terminer, environ 55% des compagnies aériennes envisagent des réductions d'effectifs dans les 12 mois à venir en raison d'une reprise du trafic aérien freiné par les incertitudes liées au Covid-19, selon l'Association internationale du transport aérien. 45% des dirigeants des compagnies aériennes ont déjà réduit leurs effectifs en raison du trafic devenu trop faible. Environ 57% des dirigeants s'attendent à un recul et pensent que les prix des billets pourraient baisser en raison de la faible reprise de la demande.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Coup de tonnerre en Guinée-Bissau. Le comité exécutif de la Fédération de football a suspendu la commission électorale à moins de 5 jours de la date prévue pour les élections à l'instance nationale du football. Le comité exécutif reporte ainsi de nouveau les élections déjà renvoyées au 8 août, tout en annonçant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 7 novembre. Lundi, le collectif de 5 candidats à la présidence de la Fédération Bissau-Guinéenne de football s'est opposé à tout report, disant soupçonner une tentative de coup de force du président sortant, Manuel Lopes Nascimento, pour gagner du temps. Le 24 juillet, ce dernier a été suspendu pour 10 ans par la FIFA. Pour le moment, le communiqué de la fédération ne précise pas s'il pourra se présenter. Aux Pays-Bas, plusieurs joueurs et membres du staff de l'Ajax Amsterdam ont été testés positifs au coronavirus en juin. La révélation a été faite par des tests réalisés à la mi-juin selon le journal de Telegraph. D'après le quotidien, 13 personnes ont été contaminées, un chiffre qu'un porte-parole de l'Ajax n'a pas voulu confirmer. Mi-juin, 90 personnes, joueurs, membres du staff et du personnel de l'Ajax ont été testés au Covid-19. Il n'a pas été précisé quand ni comment les personnes concernées ont été contaminées. Actuellement, personne à l'Ajax n'est infecté par le virus, a confirmé le porte-parole au Télégraphe. En cyclisme, le Sud-Africain Darryl Impey rejoindra pour les 2 prochaines années l'équipe Israël SN, dont le nouveau leader sera le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. Chris m'a appelé et m'a dit qu'il avait confiance en moi et voulait que je sois à ses côtés, a déclaré Impey. Premier Africain à porter le maillot jaune du Tour en 2013, Impey, 35 ans, court dans l'équipe Mitchelton depuis 2012. 2 fois vainqueur du Tour Down Under 2018 et 2019, Impey a enlevé l'an passé l'étape du Tour de France arrivant à Brioude. En NBA, Luka Doncic a livré un triple-double record contre les Kings, offrant aux Mavericks leur première victoire depuis la reprise de la saison en Floride. À 21 ans, le jeune Slovène est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue nord-américaine à empiler un triple-double avec un minimum de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives en un match. Doncic a totalisé 34 points, pris 20 rebonds et offert 12 passes décisives pour mener les Mavs à la victoire 114-110 au bout de suspense contre Sacramento. De leur côté, 3 matchs et 3 victoires pour les Suns de Phoenix, dont la dernière au buzz contre les Clippers 117-115. Les Nets de Brooklyn ont retardé le couronnement des Bucks de Milwaukee comme tête de série numéro 1 avec une victoire surprise 119-116. C'est la 2e défaite consécutive pour les Bucks, leader après celle contre Houston dimanche.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Un collectif d'opposants guinéens a porté plainte en France contre le président Alpha Condé et certains de ses proches pour corruption présumée dans le secteur minier. L'affaire qui éclate pendant la convention du RPG au pouvoir fait réagir à Conakry, mais ne semble pas ébranler la majorité présidentielle qui a sollicité un nouveau mandat pour le président Condé. Le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Il s'agit d'une plainte déposée à Paris par le collectif pour la transition en Guinée contre le président guinéen, son fils et son ministre de la Défense. Au micro de la Voix de l'Amérique, certains Guinéens rencontrés dans les rues de Conakry se sont exprimés sur cette actualité.
C'est une plainte tout à fait légitime et je pense qu'il y a beaucoup de trucs dont le président doit répondre, pas seulement pour ce qui est du troisième mandat.
Les membres de ce collectif aussi peuvent porter plainte contre même le président. Parce que c'est leur président, c'est le président des Guinéens qui se trouve en Guinée. Surtout que le sujet, c'est pas des moindres, la corruption. Et il faut dire que l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir a suscité assez d'espoir. Mais au fil des ans, quand il est venu au pouvoir, on a compris tout de suite que ce n'était pas rien de tel.
Ce mercredi, le parti au pouvoir va organiser une convention en vue de désigner son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Pour ce jeune Guinéen, cette plainte risque de détourner l'attention des Guinéens sur l'essentiel.
Quand on voit un peu ce qui se passe en Guinée, c'est sur le compte lequel on se prépare. Il faudrait dire que ça pourrait même détourner l'attention parce qu'aujourd'hui, il y a un combat qui se mène à l'interne sur le plan national où on essaie justement de barrer la route Alpha Condé pour un troisième mandat. Alors s'il y a un autre dossier qui émerge à partir de la France, moi je pense que ça peut disperser un peu l'orientation donc des Guinéens par rapport à ce dossier et surtout du troisième mandat. Moi je crois qu'il faudrait d'abord savoir se concentrer sur ce qui est l'essentiel, c'est d'abord travailler sur le respect de la Constitution et essayer donc d'éviter que les efforts soient dispersés.
Hier mardi, les députés de la majorité ont porté leur choix sur le président Alpha Condé comme candidat du parti à la prochaine présidentielle. Une déclaration faite à l'Assemblée nationale qui fait réagir Talibé Bari, analyste politique.
L'appel fait par les alliés d'Alpha Condé lui demandant d'être candidat à un troisième mandat. Et cet appel de la part des députés du RPG n'est pas surprenant parce qu'il y a comme une sorte d'élan de suivisme qui voudrait que tout le monde, en tout cas dans la famille présidentielle, déclare son soutien à un troisième mandat du président Alpha Condé. Mais ce qui surprend et même choque, c'est lorsqu'on choisit l'hémicycle, la représentation nationale, pour lancer un tel appel. Un appel en faveur d'une posture, d'un choix qui divise tant les Guinéens. Et pour laquelle question, il y a eu, à la veille du référendum de mars, du 22 mars, pas moins d'une cinquantaine de morts.
À l'issue de la convention, on en saura davantage sur la réponse du président Alpha Condé sur sa candidature ou non à l'élection présidentielle en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le 5 août marque la date anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Cela fait 60 ans que l'ancienne Haute Volta a accédé à la souveraineté nationale. Si beaucoup de Burkinabés pensent que cette indépendance est effective, d'autres estiment qu'il y a encore de nombreux défis à relever pour parler d'une véritable autonomie du pays des hommes intègres. Un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Les Burkinabés célèbrent aujourd'hui, 5 août, leur accession à l'indépendance. 60 ans que le pays a décidé de se défaire du joug colonial et de prendre en main son destin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains citoyens veulent marquer une halte pour fêter cette autonomie nationale. Émilienne Kabore, une citoyenne vivant à Ouagadougou.
60 ans d'indépendance, ça se fête. Il faut faire un arrêt pour analyser les choses, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, les Burkinabés ont compris que ce qui était dit depuis 1960, les Burkinabés ont compris qu'il faut consommer Burkinabé. Aujourd'hui, tout le monde porte le pain face au Dafani, c'est un bel exemple.
Diédoné Ouédra Ogo, par contre, estime que le pays n'a acquis l'indépendance qu'en 1983 avec l'avènement de la révolution.
Pour moi personnellement, l'indépendance réelle du Burkina Faso commence en 1983 où il y a eu changement de régime, il y a eu l'avènement de la révolution qui nous a donné en fait un sentiment de fierté par rapport à notre pays avec ce changement de nom, avec ce changement de régime et un changement en fait de la gouvernance.
Tout compte fait, Edouard Ouédraogo pense que 60 ans après, le Burkina a connu une évolution infrastructurelle intéressante.
Moi qui ai connu un Ouagadougou qui était totalement en bango, parce qu'en 1960, les bâtiments définitifs, on les comptait sur le bout des doigts. Je peux les énumérer rapidement. Le palais de justice, le palais de la présidence, le ministère des finances, là. Et puis l'hôpital Yaradou qu'on était en train de construire, il n'y avait que ça. Et je vois aujourd'hui ce qu'est Ouagadougou. Bon, je peux dire que relativement quand même, on a avancé.
Zongo Alain n'est pas de cet avis.
Aujourd'hui, vraiment, c'est avec amertume. Il faut reconnaître que la fièvre et la joie qui ont suivi la déclaration d'indépendance ont donné aujourd'hui vraiment à un désenchantement. Beaucoup de gens sont vraiment désillusionnés parce que 60 ans après, quand vous regardez la plupart des États africains, nous sommes toujours à un stade où vraiment on ne peut pas dire que nous avons progressé à la hauteur de nos attentes.
La question que l'on peut se poser aujourd'hui est de savoir comment sortir de cette indépendance virtuelle ou du moins de façade.
Il faut complètement repenser le développement de nos États.
Paul Miki Rwamba.
Et les réorienter vers des systèmes beaucoup plus endogènes. Parce que nous avons essayé le système démocratique suivant le modèle occidental qui malheureusement a montré ses limites dans la gouvernance en Afrique. Nous avions meilleure gouvernance, meilleur système politique avant l'arrivée des colons à travers justement la chefferie traditionnelle ou tout.
Indépendant ou pas, le Burkina a d'autres défis plus importants à relever aujourd'hui. La question sécuritaire passe comme une urgence. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le COVID-19 et l'adaptation au numérique. Alors que beaucoup de secteurs souffrent énormément des restrictions imposées un peu partout pour essayer de contenir la propagation du nouveau coronavirus, les plateformes digitales enregistrent un grand boom. Du commerce électronique au télétravail, le numérique est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien des populations. Quelles sont les opportunités et les défis d'un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous jeudi 6 août à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Nigeria, des tribunaux mobiles ont été mis en place pour faire respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Les contrevenants sont arrêtés par une unité chargée de contrôler notamment le port du masque et la distanciation sociale, particulièrement dans les transports. Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Dans ces grands quartiers populaires de Nyanya, près d'Abuja, la capitale, se trouve un des tribunaux mobiles établis par les autorités pour faire respecter les mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. Une équipe d'agents de sécurité et de magistrats s'occupe tous les jours ici depuis le mois de mars de faire respecter les décisions du gouvernement. Yamoussa Saïd Mustafa est l'un des juges assignés à ce tribunal.
Aujourd'hui, nous avons jugé 25 personnes pour violation des mesures sanitaires. Elles n'ont pas respecté la distanciation physique. Elles ont surchargé leur véhicule. Elles ont pris plus de passagers que prévu.
Le tribunal mobile de Nyanya effectue plus de 20 arrestations par jour depuis le début de ses opérations. Les témoignages de deux chauffeurs de taxi qui ont été arrêtés et punis après avoir violé les règles de circulation en cette période de COVID-19.
Je revenais de Nyanya, j'ai pris trois passagers derrière et un devant.
Donc, ils m'ont arrêté pour me dire que mon taxi est surchargé. Je dois effectuer des travaux communautaires comme punition.
Je dois payer 4000 naira comme amende, mais j'ai demandé pardon avec 3000. Je n'ai pas d'argent sur moi. Nous essayons juste de tourner un peu pour trouver de quoi manger, mais ils disent non.
Les tribunaux mobiles ne sont pas prévus dans la constitution du Nigeria, mais leur mise en place est bien légale, selon l'avocat Owo Temu du barreau nigérian.
Même s'ils ne sont pas créés par la Constitution, c'est statutaire et constitutionnel, parce que la Constitution donne le pouvoir au Parlement de voter les lois. Les tribunaux mobiles sont créés par une loi votée par le Parlement. Donc à cause de ça, ils sont légalement constitués.
Selon les observateurs, ces tribunaux mobiles ont contribué durant les 5 derniers mois à sensibiliser une grande partie de la population à respecter les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19. Plusieurs centaines de contrevenants ont été arrêtés à travers le pays. Certains ont payé des demandes avant d'être libérés, d'autres ont été soumis à des travaux communautaires pour quelques jours et parfois quelques heures. Le Nigeria a recensé ce mercredi 5 août 2020 plus de 40 000 cas confirmés de Covid-19 avec 910 décès. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les fondateurs des États-Unis, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo, ont changé le cours de l'histoire en établissant une nation fondée sur les principes que le gouvernement existe non pas pour diminuer ou annuler les droits de l'individu suivant la volonté de ceux qui sont au pouvoir, mais pour les garantir. Le secrétaire d'État Pompeo a récemment chargé un groupe d'universitaires et des militants de fournir des conseils sur les droits de l'homme fondés sur les principes fondateurs des États-Unis et les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette entreprise, connue sous le nom de Commission des droits inaliénables, a publié son rapport. Pendant la publication de ce rapport, le secrétaire d'État Pompeo a confirmé que les États-Unis sont fondés sur certains droits inaliénables sans lesquels nos efforts de protection et de promotion des droits de l'homme ne sont pas ancrés et sont donc voués à l'échec. Les fondateurs des États-Unis n'ont pas inventé des droits inaliénables, mais ont déclaré très clairement dans la Déclaration d'indépendance qu'ils sont considérés comme évidents que les êtres humains ont été créés égaux et dotés de certains droits inaliénables que sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Le rapport de la Commission des droits inaliénables souligne que parmi ces droits, le droit de propriété et la liberté religieuse sont au premier plan, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Personne ne peut profiter de la poursuite du bonheur si vous ne pouvez pas posséder les fruits de votre propre travail et aucune société ne peut conserver sa légitimité ou un caractère vertueux sans liberté religieuse. Il est clair que les droits inaliénables sont au cœur de ce que nous sommes en tant qu'Américains et que ces droits doivent aussi étayer notre politique étrangère, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Si nous croyons vraiment que les droits sont inaliénables, inviolables, durables, voire universels, tout comme l'ont fait les fondateurs, alors les défendre devrait être le fondement de tous nos efforts diplomatiques. En effet, l'attachement de l'Amérique à des droits inaliénables s'est avéré une lueur d'espoir pour les hommes et les femmes à l'étranger et qui recherchent leur propre liberté. Le dissident soviétique Nathan Sharansky en est un exemple. Lorsqu'il a entendu parler du discours de l'empire du mal du président Ronald Reagan alors qu'il était emprisonné, il a dit que c'était une lueur d'espoir dans l'obscurité de sa cellule de prison. « Je suis convaincu, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo, que l'étoile américaine brillera à travers les cieux tant que nous garderons une bonne compréhension des droits inaliénables au centre de notre quête sans fin pour garantir la liberté de notre propre peuple et celle de toute l'humanité. »
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.